Il est midi et demi en temps universel, 2 heures de plus ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. Un développement inattendu dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays sont attendus cet après-midi à Washington par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ils doivent y signer une déclaration de principe censée poser les bases d'un cessez-le-feu durable. La fin de la visite d'État d'Emmanuel Macron hier à Madagascar, le président français a annoncé l'ouverture d'une commission mixte d'historiens pour éclaircir les zones d'ombre de l'histoire coloniale française sur la Grande Île. Au Darfour, que sont devenus les centaines de milliers de déplacés du camp de Zamzam, chassés il y a 15 jours par une attaque des paramilitaires FSR du général Emeti? Marion Rammstein, coordinatrice de projet à Médecins Sans Frontières au Darfour, est notre invitée. Et puis ce 25 avril, les journées mondiales contre le paludisme. La malaria tue 500 000 personnes chaque année sur le continent. Des vaccins existent désormais et permettent de réduire les formes graves chez les enfants. Une nouvelle dynamique diplomatique en marche pour la région des Grands Lacs. Elle est américaine. Aujourd'hui, à Washington, le secrétaire d'État américain Marco Rubio doit présider une cérémonie de signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Patient Ligaudy, des officiels de haut niveau des deux pays sont attendus à Washington.
Et oui, les signataires, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, et son homologue rwandais Olivier Ndoungiré. Objectif affiché, poser les bases d'un cessez-le-feu durable dans une région secouée par des décennies de conflits. Depuis sa prise de fonction, Marco Rubio a échangé avec Félix Tshisekedi, Paul Kagame, mais aussi avec le chef de la diplomatie angolaise et le président kenyan William Ruto. Aujourd'hui, cette déclaration marque une nouvelle étape dans l'engagement américain. La cérémonie se tient à 14h à Washington, soit 20h à Paris. Les deux ministres seront ensuite reçus séparément par le secrétaire d'État adjoint Christophe Lando. Et que contient donc cette déclaration? Pour l'heure, aucune information officielle n'a filtré, mais selon des sources diplomatiques, elle vise à consolider les efforts en cours. On sait que 4 jours plus tôt, le médiateur qatari Mohamed Al-Khulaifi rencontrait Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche. Les États-Unis, tout en soutenant le processus de Doha, déploient leur propre stratégie. Comme l'a récemment rappelé Massad Boulos, ce conflit dure depuis plus de 30 ans, il est temps d'y mettre fin. Fin de citation. Et pour Washington, l'économie fait partie de la solution. Un accord minier est en discussion avec Kinshasa, mais aussi avec d'autres pays de la région. Un moyen, selon la diplomatie américaine, d'ancrer la paix dans l'investissement et les développements.
Sur le terrain, au Nord Kivu, le cri d'alerte de Médecins Sans Frontières après qu'un de ses collaborateurs terrain a été tué par balle à son domicile à Massissi-Centre. Cela s'est passé le 18 avril dernier. Cet homme était infirmier à l'hôpital général de référence de cette localité. Il faut que cela cesse, dit MSF. C'est le 3e employé de l'organisation à perdre la vie par balle depuis le début de l'année au Nord Kivu. Inadmissible pour Emmanuel Lamparte, responsable pays de Médecins Sans Frontières en RDC.
Vendredi passé, à sa sortie de l'hôpital général de référence à Massissi, notre collègue, collaborateur terrain, infirmier à cet hôpital, a été tué, assassiné par balle à son domicile par des hommes en uniforme. Cela témoigne en effet d'une dégradation générale de la situation sécuritaire. Beaucoup est mis en avant ce qui se passe sur les lignes de front où lorsqu'il y a les échanges, les opérations militaires, mais une dégradation sécuritaire est de fait constatée aussi très loin des lignes de front, dans les zones dites sous contrôle. Voici encore une fois un fait qui témoigne de cette dégradation et de la non-protection des civils et du non-respect de la protection de la mission médicale, de son personnel et des structures médicales.
Des propos recueillis par Lisa Fabian. Au Bénin, la polémique enfle après l'attaque terroriste qui a fait 54 morts dans le nord du pays le 17 avril dernier. C'est le bilan annoncé avant-hier par le gouvernement. La communication des autorités est particulièrement critiquée, Jean-Luc Aplogan.
Les Béninois, toutes régions, tous bords politiques et toutes religions confondues, ont condamné le carnage du jeudi 17 avril au point triple et à Koudou. L'opinion publique est choquée et révoltée, mais s'en prend tout de même au gouvernement pour son silence des premiers jours et sur le bilan donné en deux temps et à quelques jours d'intervalle. Beaucoup le déplorent et l'assimilent à un maquillage de chiffres. D'autres se demandent pourquoi, une semaine après, Patrice Talon n'a pas décrété un deuil national et mis les drapeaux en Berne. Mercredi, Wilfried Mbedi présentait aux familles éplorées les condoléances du gouvernement. Chaque famille endeuillée devrait recevoir un courrier de compassion et de soutien du ministre de la Défense. Ça a été le cas lors des attaques du 8 janvier. En dehors des appels à l'union sacrée et au patriotisme, signalons cette recommandation du parti d'opposition Les Démocrates. La formation demande au gouvernement d'engager des concertations urgentes et sincères avec les pays voisins. Avant lui, Wilfried Mbedi reconnaissait que cette coopération sous-régionale était impérative pour mener une riposte plus efficace. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Un nouvel épisode dans le feuilleton gouvernement malien. Barrick Gold, Bamako réclame à cette société minière canadienne des millions d'arriérés d'impôts au titre de son nouveau code minier adopté l'an dernier. Un premier versement de 85 millions de dollars a été effectué. Mais cela n'a pas empêché la fermeture des bureaux de Barrick à Bamako et la menace de placer la mine de Loulo-Gounkoto sous administration provisoire. Barrick a saisi le CIRDI, l'institution d'arbitrage de la Banque mondiale. Comment cette procédure fonctionne-t-elle? La réponse de Charlotte Cossé.
Barrick a désigné le premier arbitre, deux autres doivent encore être nommés, un par le Mali et un troisième choisi conjointement. Après cela, un calendrier sera défini. Mamadou Gakko, avocat au barreau de Paris, spécialiste des questions d'arbitrage international.
Classiquement, il y a deux phases. Il y a une première phase de procédure écrite. À l'issue de cette phase écrite, il y a une phase orale qui consiste en une audience. Des experts et témoins peuvent être entendus et l'affaire peut être plaidée par les parties. Alors, la durée totale de la procédure est très variable d'une affaire à une autre. On peut l'estimer à au moins 3 ans, mais elle peut être beaucoup plus longue.
Une procédure qui prendra plusieurs années, estime l'avocat.
Barrick a initié l'arbitrage et le Mali ne peut plus à ce stade revenir sur cette offre d'arbitrage. Donc, le Mali est lié par la procédure et donc celle-ci se déroulera quelle que soit son attitude à son égard. Et il est important de relever que la décision qui sera rendue s'imposera au Mali comme une décision de justice et que Barrick pourra en l'occurrence l'utiliser pour saisir par exemple des biens maliens si Barrick obtient une condamnation de l'État malien dans cette procédure.
Une procédure qui n'empêche pas les parties de régler leurs différends à l'amiable comme assure le vouloir Barrick. En cas d'accord hors de l'action menée auprès du CIRDI, il sera alors mis fin à l'arbitrage.
La fin de la visite d'État hier d'Emmanuel Macron à Madagascar. Le président français a annoncé l'ouverture d'une commission mixte d'historiens pour éclaircir les zones d'ombre de l'histoire coloniale française sur la Grande Île. Il a également évoqué la question de la restitution de 3 crânes Sakalave détenus à Paris. Parmi eux, celui du roi Sakalave Touéra, décapité en 1897 par les troupes coloniales. Reportage Sarah Teto.
C'est pour moi très émouvant d'être avec la délégation française ici devant vous dans ce palais. J'espère retirer cette épine que vous évoquiez.
C'est dans l'enceinte du Rouvre, le palais royal qui domine la capitale, qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux descendants du roi Sakalave, décapité par les troupes coloniales françaises en 1897, au sujet de la restitution prochaine des restes humains réclamés depuis 2 décennies.
Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble avec ça? D'abord, je crois permettre le deuil et permettre que des vies qui avaient été séparées puissent retrouver leur place. Ça ne répare pas les choses. Il n'y a que vous qui pourrez faire ce chemin, qui est aussi un chemin de pardon, qui est éminemment intime. Mais nous en créons les conditions.
Créer les conditions aussi pour que la vérité sur les répressions sanglantes commises lors de la colonisation émerge enfin. Hier, juste avant son départ, le président a alors fait une annonce attendue.
Nous avons décidé avec le président Radoel ce matin d'installer une commission mixte franco-malgache d'historiens autour de 1947 et des guerres de décolonisation et des atrocités qui ont été commises. à cette époque qui reste encore une plaie très forte dans l'histoire, évidemment, de Madagascar, mais qui est aussi un moment de notre histoire commune qu'il faut rouvrir.
Une décision saluée hier soir par les historiens malgaches. Ces derniers espèrent enfin accéder aux archives de la police coloniale. Un pas de plus pour lever notamment le voile sur le nombre réel de victimes des répressions. Selon les sources, les chiffres varient entre 10 000 et 100 000 morts. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Volodymyr Zelensky était hier en Afrique du Sud où il a été reçu par le président Cyril Ramaphosa. Une visite raccourcie puisque Kiev a été la cible de frappes russes très meurtrières, l'une des attaques sur la capitale ukrainienne les plus importantes depuis le début de la guerre. Avant de reprendre l'avion, Volodymyr Zelensky a tenu à rappeler l'importance du rôle de l'Afrique et de l'Afrique du Sud et du continent africain en général pour parvenir à la paix.
C'est une rencontre historique, première visite officielle du président ukrainien dans un pays d'Afrique, illustration d'une volonté de se rapprocher du continent.
Poutine n'apprécie pas la présence de l'Ukraine en Afrique. La Russie veut une présence exclusive, mais nous sommes convaincus que le président sud-africain et d'autres partenaires sur le continent contribueront à forcer Poutine à soutenir un cessez-le-feu total et inconditionnel et à arrêter la guerre.
Et en tant que pays non aligné, l'Afrique du Sud a réaffirmé sa volonté d'être un pays médiateur. Rien que cette semaine, juste avant la visite de Zelensky, Cyril Ramaphosa a aussi échangé au téléphone cette fois avec Vladimir Poutine, puis avec Donald Trump.
L'expérience de notre propre parcours, du cauchemar de l'apartheid à la démocratie, nous fait comprendre l'importance d'impliquer toutes les parties au conflit pour parvenir à la paix. S'il est une chose que notre histoire nous a apprise, c'est que la diplomatie et le dialogue sont plus puissants que n'importe quelle arme.
Volodymyr Zelensky a dû écourter sa visite à Pretoria pour rentrer en urgence à Kiev après l'une des plus grandes offensives russes sur la capitale ukrainienne. Valentin Hugues de retour de Pretoria, RFI.
Ce 25 avril est journée mondiale contre le paludisme, la malaria qui tue 500 000 personnes chaque année sur le continent. Désormais, des vaccins existent et permettent de réduire les formes graves chez les enfants. Une large campagne de vaccination a été menée au Cameroun. Premier bilan avec notre correspondant Richard Onanena.
Avec une couverture de 70%, l'administration des premières doses est un succès selon le programme élargi de vaccination, PEV, malgré les doutes au sein de la population liés au vaccin. En revanche, le taux de vaccination est moins convaincant pour les doses suivantes, avec moins de 50% pour la troisième dose. Selon Shalom Doula Tchokfe, secrétaire permanent du PEV, la mise en place d'un nouveau calendrier vaccinal pourrait expliquer ce retard.
C'est des rendez-vous inhabituels pour les mamans, parce qu'il faut amener l'enfant à 6 mois, à 7 mois et à 9 mois.
Certaines données du ministère de la Santé montrent une baisse significative du nombre de décès liés au paludisme dans les 42 districts de santé où les vaccins ont été administrés. Mais pour Shalom Doula Tchokfe, il est encore tôt pour associer ces chiffres à l'introduction du vaccin.
On ne peut pas dire que c'est attribuable à la vaccination seulement parce qu'il y a eu plusieurs efforts aussi de lutte contre le paludisme qui se sont renforcés, notamment la chimioprévention du paludisme saisonnier, aussi le traitement préventif intermittent qui ont été fournis de manière intégrée avec la vaccination et nous avons travaillé avec le programme national de lutte contre le paludisme pour cela.
Le Cameroun recevra de nouvelles doses de vaccins en septembre prochain. Chaque année, le paludisme tue près de 11 000 enfants dans le pays. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Yaoundé, où plusieurs milliers de personnes assistent en cette mi-journée à une cérémonie au nouveau complexe construit par la Chine qui abrite l'Assemblée nationale, un musée parlementaire et des bureaux administratifs. Une cérémonie de baptême. L'ensemble immobilier est nommé Palais des Verts Paul Biya. La cérémonie est présidée par le Premier ministre camerounais Joseph Diongouté.
Afrique Midi sur RFI.
Il est 13h44 à Yaoundé. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, du football, les Égyptiens de Pyramids FC, les Sud-Africains d'Orlando Pirates disputent ce soir une place en finale de la Ligue des Champions. Et la réouverture aujourd'hui à Tripoli du musée national libyen, voilà 14 ans qu'il était fermé. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce vendredi, la Cour constitutionnelle du Gabon publie les résultats définitifs de la présidentielle du 12 avril. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema obtient finalement, selon ses chiffres, 94,85% des voix, une progression de presque 5 points par rapport aux résultats provisoires. Les sports du football, pour la première fois de sa courte histoire, le Pyramids FC à l'occasion de se hisser en finale de la Ligue des Champions africaine. Le 11 Kerot affronte ce soir à domicile les Sud-Africains d'Orlando Pirates après un nul 0 partout à l'aller. Tout reste à jouer, Martin Dumas-Primbault.
Ce soir, c'est peut-être une page d'histoire qui s'écrit pour le Pyramids FC. Une victoire lors de la demi-finale retour au Caire face aux Orlando Pirates sud-africains marquerait un tournant pour ce club longtemps considéré comme un petit pousset au pays des géants depuis sa fondation en 2018. Déjà en tête du championnat égyptien, cette performance viendrait couronner une saison exceptionnelle pour le dernier né des clubs du Caire. Propriété d'un homme d'affaires émirati, le Pyramids FC n'a jamais caché son ambition. Rivaliser avec les monstres africains Al Ahly et Zamalek. Mais jusqu'ici, les trophées n'ont pas suivi. Une seule ligne à leur palmarès, la Coupe d'Égypte en 2024, et des tribunes toujours tristement vides. Le club aux allures de franchise de football américain peine encore à gagner le cœur des supporters et à s'installer sur les plus prestigieux podiums. Heureusement, il peut compter sur Ibrahim Adel, milieu égyptien et co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 5 réalisations, et sur le Congolais Fiston Mayele, numéro 9, est déjà auteur de 3 buts. Martin Dumas-Primbault, Le Caire, RFI.
Coup d'envoi du match à 19h local. Le musée national libyen, fermé depuis 2011, rouvre officiellement ses portes ce vendredi à Tripoli. Établi depuis 1919 dans une forteresse du centre historique, il avait été fermé en 2011, quand des rebelles y avaient fait irruption. Il abrite l'une des plus importantes collections d'Afrique du Nord. Comme le détaille Vincent Michel, professeur d'archéologie à l'université de Poitiers et dirigeant de la mission archéologique française en Libye, qui a participé à la réhabilitation du musée.
C'est un grand musée hein, qui se développe sur 3 niveaux et on commence en fait par la préhistoire avec vraiment un accent sur les sites de la Cacousse, sur ce patrimoine rupestre qui est assez incroyable, d'un incroyable état de conservation qui présente des peintures et des gravures rupestres qui sont assez uniques. Et puis après, on déambule d'abord dans les tribus locales, anciennes. Puis après, en fait, on rentre dans l'histoire. D'abord, l'histoire des Phéniciens, le rôle en fait des Phéniciens dans la revitalisation d'un certain nombre de lieux. Et puis le développement de la culture romaine en tripolitaine. Et c'est vrai que c'est toujours très étonnant, hein. Des grandes statues dynastiques ou religieuses, des portraits colossaux justement d'empereurs. On continue avec la culture grecque qui est essentiellement centrée sur les sites de Cyrénaïque. Et puis la culture byzantine, chrétienne, avec des objets et des mosaïques. Et puis on arrive aux arts de l'islam. On termine la visite par aussi quelque chose qui est important, c'est toute la partie ethnographique. L'inspiration qu'on voulait aussi donner à ce musée, c'était un parcours à la fois chronologique mais aussi thématique.
Des propos recueillis par Ouda Ibrahim. Un album photo sur les traces du dernier empereur d'Éthiopie. 5 mois après l'inauguration à Addis Abeba du palais impérial restauré, des clichés inédits de Haïlé Sélassié sont révélés à leur tour. L'ouvrage dans lequel ils sont publiés, le fruit d'une collaboration entre chercheurs français et éthiopiens à l'université d'Addis Abeba, le reportage de Marlène Panara.
Dans les couloirs de l'université d'Addis Abeba, Chirefo Bekele feuillette les 250 pages de l'imposant ouvrage. La première photo, le palais et ses colonnades devant lesquelles défile un bataillon de soldats à cheval, exalte la puissance de l'empereur Haïlé Sélassié. Pour l'historien, cette image d'Épinal est gravée dans l'esprit de beaucoup d'Éthiopiens.
Une bonne partie de la population l'apprécie, l'admire, le vénère même. Il le considère comme un grand leader, un sage, qui a fait passer le pays de l'ère médiévale à la modernité.
À travers des photos plus personnelles et des anecdotes, le livre souhaite réhabiliter l'image d'Haïlé Sélassié. Des photos montrent l'empereur en famille à la mer ou assis dans un fauteuil avec son chihuahua, un petit chien noir dont il ne se sépare jamais. Une façon d'adoucir l'image du dirigeant dont la figure reste controversée dans la société éthiopienne.
Le livre met en lumière des aspects de la vie de l'empereur qui n'étaient pas connus jusqu'ici. Sa vie privée, familiale. Les Éthiopiens comme les Africains ont le droit d'en savoir plus sur cet homme, d'avoir une image complète de cet homme.
80 photos illustrent ce livre. Elles proviennent d'un lot de 10 000 images retrouvées en 2018 dans le palais national à Addis Abeba. Chirefo Bekele explique.
L'équipe a pu sélectionner un petit nombre de ces photos. Nous avons ensuite informé une plus large communauté de chercheurs, de journalistes, de l'existence de ce corpus.
Haïlé Selassie, les albums photos du palais, est édité en français, en anglais et en amharique aux éditions Chama Books.
14h49 à Paris, Anne Cantner, les grands titres de ce vendredi 25 avril.
L'avenir de l'Ukraine qui semble déjà fixé par Donald Trump, le président américain affirme dans une interview que la Russie gardera la Crimée, région ukrainienne annexée en 2014. Volodymyr Zelensky a toujours dit qu'il y était fermement opposé. Cette déclaration, elle intervient alors que les échanges s'accentuent entre les États-Unis et la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères est à Washington et l'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré Vladimir Poutine à Moscou tout à l'heure. De nouveaux bombardements israéliens à Gaza, ils ont fait au moins 12 morts selon la défense civile palestinienne. La situation est catastrophique et pourrait encore empirer car le programme alimentaire mondial annonce avoir épuisé tous ses stocks alimentaires et l'aide humanitaire est toujours bloquée par Israël. Et puis le gouvernement français présente son plan pour lutter contre les déserts médicaux. Une mesure, notamment la demande faite aux médecins d'exercer 2 jours par mois dans des zones prioritaires, moyennant la mise en place d'un bonus-malus financier pour les médecins qui respecterait ou au contraire qui se déroberait à cette recommandation. Et tout de suite, l'invité d'Afrique Midi.
L'inquiétude pour les déplacés du camp de Zamzam dans l'ouest du Soudan. Voilà 15 jours que les paramilitaires FSR du général Hemeti ont attaqué ce camp proche d'El Fasher. La dernière grande ville du Darfour a échappé à leur contrôle. Des centaines de milliers de civils ont pris la fuite. Marion Rammstein, coordinatrice de projet à Médecins sans frontières au Darfour, est l'invitée d'Alexandra Branjon.
Marion Rammstein, bonjour.
Bonjour.
Il y a 2 semaines, les paramilitaires du général Hamdan Daglo di Hemeti attaquaient le camp de Zamzam qui abritait plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de déplacés. Est-ce que le camp est toujours là aujourd'hui? Que sont devenus ces déplacés?
Effectivement, suite à l'attaque, les gens ont commencé à fuir le camp. La plupart d'entre eux se sont dirigés vers Tawila, qui est située à l'ouest, 60 km plus loin. Et une grosse partie sont également réfugiés à El Fasher, qui est la capitale du Darfour, 20 km au nord de Zamzam. On estime qu'il y a peut-être 10% de la totalité de la population du camp qui serait restée à Zamzam. Mais l'immense majorité a fui et beaucoup d'entre eux ont péri aussi pendant l'attaque à cause des tirs, à cause des bombardements. Et ça a généré un mouvement massif de population.
Alors, un des endroits vers lesquels ces déplacés ont fui, hein, vous le disiez, c'est la ville d'El Fasher, qui est assiégée depuis un an par les paramilitaires et qui subit ces derniers jours un regain d'attaque des FSR. Est-ce que vous avez des nouvelles, des informations sur le sort des déplacés qui s'y sont réfugiés?
Oui, on est toujours en contact avec des personnes qui sont à El Fasher. On a également reçu à Tawila des personnes qui sont passées d'abord par El Fasher avant de choisir d'aller à Tawila. Et les conditions de vie sont extrêmement dures. Pourtant, on parle d'une très grosse ville qui est la capitale du Darfour. Mais après un an presque de siège, des bombardements quotidiens depuis un an, des tentatives d'attaque qui sont repoussées mais qui sont à chaque fois très meurtrières, les conditions de vie sont extrêmement dures. Notamment aussi puisque à cause du siège, il n'y a aucun approvisionnement qui rentre. Et donc pour se nourrir, pour avoir accès à l'eau, c'est extrêmement compliqué. D'autant plus qu'avec toutes ces nouvelles personnes qui arrivent et qui essaient de trouver refuge à El Fasher, ça rajoute de la pression sur les ressources qui étaient déjà très rares. Donc les conditions de vie deviennent tellement insoutenables que les nouveaux réfugiés qui fuient Zamzam, qui pensaient trouver un refuge à El Fasher, finissent par prendre le risque de reprendre la route vers Tawila, puisqu'il n'y a rien pour eux. Les prix des denrées alimentaires de base sont devenus totalement inaccessibles, l'accès à l'eau est très difficile et il y a manque de tout, de fuel, les prix ont triplé en l'espace de quelques jours.
Et les ONG peuvent y travailler?
Non, on est complètement incapable d'envoyer de l'approvisionnement à El Fasher. Toutes les routes aux alentours d'El Fasher sont bloqués. C'est impossible d'envoyer quoi que ce soit. Et les conditions pour travailler à l'intérieur de El Fasher sont extrêmement difficiles aussi, puisque chaque mouvement à l'intérieur de la ville, c'est s'exposer à un risque de se faire bombarder, puisque la ville est bombardée quotidiennement. Il n'y a pas d'endroit sécurisé dans l'intégralité de la ville. Et nous, on a arrêté complètement toutes nos activités à El Fasher depuis juin dernier.
Alors l'autre lieu vers lequel ces déplacés se sont enfuis, c'est le camp de Tawila, et où MSF est présent. Vous y accueillez ces déplacés. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Dans quel état est-ce qu'ils arrivent?
Les récits sont vraiment terrifiants. Ils arrivent avec rien, absolument rien, juste les quelques biens qu'ils ont réussi à prendre avec eux pendant la fuite. Mais certains se sont fait racketter, piller pendant la route, battus, tués et violés aussi. Beaucoup de récits de viol. Et ça, c'est seulement sur le chemin. Mais avant ça, ils ont fui une attaque extrêmement meurtrière. Leurs récits sont terrifiants. Ils parlent de corps tout autour d'eux. Pendant l'attaque, les militaires qui rentraient dans chaque maison pour tuer les civils qui étaient encore là et qui ne fuyaient pas. Et un déplacement tellement massif de personnes d'un coup que ce sont des familles déchirées qui ont perdu des membres de leur famille soit pendant la fuite dans le chaos, soit parce qu'ils ont dû les abandonner derrière eux puisqu'ils étaient trop blessés pour continuer la marche avec eux jusqu'à Tawila.
Quand vous parlez d'attaque des militaires, de qui parle-t-on exactement ?
De la junte de RSF. Donc les récits sont glaçants, mais leur état physique aussi est vraiment terrifiant. À l'hôpital, on reçoit énormément de personnes qui sont complètement déshydratées. C'est la première cause de tous les patients qu'on reçoit, les plus nombreux sont à cause de déshydratation très sévère. Il y a quelques jours, une patiente est morte à l'arrivée, donc avant même son admission à l'hôpital, à cause de déshydratation sévère. Les personnes en arrivant nous racontent qu'ils ont laissé des gens derrière et qui sont morts de soif. Et les enfants, tous les enfants qu'on accueille à l'hôpital sont dans des états de déshydratation extrêmement sévères. C'est très, très préoccupant.
Et ils continuent d'arriver encore aujourd'hui?
Oui, ils continuent d'arriver encore aujourd'hui. Les jours de pic, juste après l'attaque, on montait à près de 10 000 personnes qui arrivaient par jour. Maintenant, le flux a un peu réduit, mais on compte encore entre 1 000 et 1 500 personnes qui arrivent quotidiennement à Tawila. Et vu les récits et les témoignages des gens qui arrivent, il y a encore beaucoup de gens qui essayent de fuir et qui sont sur les routes. Donc, on s'attend à qu'il y ait encore plus de monde. On est extrêmement inquiet du sort de El Fachir. Qu'est-ce qui va se passer si cette ville est attaquée? Et où vont aller tous ces civils? Est-ce qu'ils vont réussir à fuir? Et donc, on se prépare à accueillir encore plus de personnes à Tawila, malgré le fait que les ressources et la réponse humanitaire n'aient absolument pas l'ampleur de la crise.
Marion Rammstein, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Marion Rammstein, coordinatrice de projet à Médecins Sans Frontières, invitée d'Alexandra Branjon. Cet entretien est à retrouver sur le www.rfi.fr et sur nos applications. On part à présent au Gabon, au cœur du parc national de l'Opé-Okanda. Il est célèbre, ce parc, pour sa faune et pour sa flore, mais aussi pour son patrimoine préhistorique qui lui a valu d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Car le parc abrite des preuves de fréquentation humaine vieilles de plus de 400 000 ans. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI, François Mazet.
Nous sommes sur le site de l'OP2, qui est daté de 9000 à 3000 ans avant Jésus.
Entre savane et forêt, Prosper Prost Toutumba est comme chez lui sur le plateau qu'il nous fait visiter. Au pied du conservateur adjoint en charge du patrimoine et du tourisme, de multiples pierres, dont certaines ont des formes caractéristiques.
Il s'agit d'un atelier de taille. C'était une usine préhistorique pour fabriquer des outils en pierre. Donc nous supposons que dans le bosquet derrière nous, qui est là-bas, que ça aurait dû être là, le village. Il n'habite pas là, mais il s'installe là juste pour fabriquer ses outils et les ramener au village. Et parfois, on peut trouver des préformes, des nucléus qu'il a commencé à tailler. Et voyez un peu comment, en regardant au sol par hasard, nous avons pris un pic. Cet enlèvement, comme ça, pointu, eh bien, ça sert à la chasse. C'est surtout pour désarticuler les animaux qui ont été pris en chasse. Il garde ce bout pointu et il va viser les parties des articulations qui sont fragiles pour séparer les membres.
L'étude en cours d'une fosse dépotoir récemment découverte sur le site permettra de mieux comprendre le régime alimentaire et les méthodes de cuisine de ces chasseurs-cueilleurs. Plus loin, surplombant l'Ogoué, le superbe site de Kongo Mbumba 7, sur les roches, des cercles frappés au burin comme une carte datée de l'âge du fer il y a 2000 ans.
De ces cercles, c'est des taches des chaînes. Tout ce côté gauche semble être antérieur et le côté droit a été ajouté par d'autres populations qui sont arrivées beaucoup plus tard. Les métallurgistes fabriquaient leur matériel, transformaient le minerai ici sur place. Alors ce trajet migratoire semble montrer un chemin où le premier groupe arrive, il laisse un signe pour dire nous sommes passés par là, voici nous avons occupé. Peut-être que le nombre de cercles va donner la taille de la population qui a été là, ou alors ce sont des étapes franchies. mais en considérant ici comme une étape majeure.
Ces gravures rupestres n'ont pas livré tous leurs secrets, mais sont menacées par l'érosion et l'activité humaine. Le parc national compte au moins 150 sites d'intérêt archéologique.
C'est pour ça qu'on dit l'OPÉ, c'est un musée à ciel ouvert, parce que partout on trouve des pierres taillées, on trouve des restes de poterie. Les gens ont habité partout ici.
Un potentiel qu'aimeraient explorer les équipes de conservation du parc, avec davantage de moyens humains et techniques pour approfondir les connaissances sur le Gabon préhistorique. François Mazet, de retour du parc national de l'OPÉ Okanda, RFI.
Et c'est dans le parc de l'OPÉ Okanda que se referme cette demi-heure africaine, réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Karine Franck, Mickaël Goncalves et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À lundi, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous dans quelques instants sur notre antenne, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À tout de suite.
Vous souhaitez réécouter ce journal ? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Donald Trump a multiplié les annonces pour recréer un paradis énergétique américain basé sur les énergies fossiles. Mais est-ce réaliste ? Non, répond notre invité Philippe Copinchy, car aux États-Unis, ce ne sont pas les politiques publiques qui décident, mais la loi du marché.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.